Europe Matin, Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous allez bien. Ce matin, on va tout faire pour choyer votre réveil. Et avec des gros lézards gentils.
Bah ouais, parce qu'il n'est pas si féroce que ça, non. Le tyrannosaure.
Bah ouais, il est tout doux. Surtout au cœur de l'exposition Le Temps des Dinosaures qui se tient en ce moment à Paris.
Alors que vous découvrez peut-être le nouveau film Jurassic Park au cinéma cette semaine, vous allez pouvoir vous balader en famille dans une nature luxuriante comme celle qui recouvrait une partie de la Terre il y a 200 millions d'années.
Voilà, et entre les hautes fougères, les lianes, les conifères du Mésozoïque, vous tomberez avec plaisir et frayeur sur l'un des spécimens à taille réelle, un vélociraptor ou un diplodocus qui bouge, respire et grogne. Visite guidée avec Manu Brave de cette exposition Le Temps des Dinosaures. Il est à l'origine de cette expo et rendez-vous à 6h moins le quart. Dans l'actualité, ce jeudi 9 juin, Julien.
Pagaille à Roissy, Charles de Gaulle ce matin. Un quart des vols annulés en raison d'une grève des personnels de l'aéroport qui demandent des hausses de salaire.
J-3 avant le premier tour des législatives.
Des législatives pour le moins indécises, qui est assez rare tant ces élections viennent habituellement confirmer le résultat de la présidentielle qui les précède. Et bien cette fois, tout est très ouvert entre un président réélu qui semble manquer de souffle, le dynamisme artificiel d'une fragile union des partis de gauche et une abstention dimanche qui pourrait être stratosphérique entre 52 et 56% selon un récent sondage.
Emmanuel Macron obtiendra-t-il la majorité absolue dont il a besoin à l'Assemblée pour réformer comme il l'entend?
On posera la question à 6h10 à notre invité, le politologue Benjamin Morel. Et puis on écoutera ensuite votre partition, Ombline.
Elle a à peine 15 ans quand elle est repérée sur son île de la Barbade. La partition de la chanteuse Rihanna, ses débuts à 6h20.
Elle a pas dû être dure à repérer en même temps.
Non.
Vu la beauté
simple.
Que c'est. Vous avez l'essentiel du programme de ce jeudi 9 juin où l'on fête les Dianes et on souhaite aussi un excellent anniversaire à notre réalisateur Fabrice Lafitte. 53 ans, ça se fête.
Bon anniversaire,
ouais,
Fabrice.
Bon anniversaire.
La météo, Danissa Haddadi, vous nous disiez hier, bonjour déjà.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
On est perturbé par tant
cet esprit de fête, voilà. Toute cette fête, tout ce champomis.
Vous nous disiez hier, Anissa, que c'était la pire journée de la semaine, donc aujourd'hui, théoriquement, ça va aller mieux.
Vous ne me faites pas confiance, je sens du doute dans cette question, Julien. Oui, ça va nettement mieux aujourd'hui. Les conditions sont bien plus calmes sur l'ensemble du pays. Alors ce matin, il reste quelques petites pluies résiduelles sur les Alpes, le Massif central et la Lorraine. C'est nuageux aussi en Occitanie. Au bord de la Méditerranée, on a beaucoup de vent, encore plus qu'hier. Hein. Mistral et Tramontane jusqu'à 90 km/h en bord de mer. C'est sur le grand quart nord-ouest en fait. C'est sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la région parisienne que la journée va le mieux démarrer avec un grand et beau soleil. Et ça va durer toute la journée puisque cet après-midi, le soleil va gagner du terrain et la journée sera très agréable pour presque tout le monde, sauf en Alsace où on a encore un petit peu de pluie. 10 à 20 degrés ce matin, c'est comme hier. Cet après-midi, c'est plus frais au nord, 17 à 22 et jusqu'à 28 dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Très bon réveil à tous. Et à la une de ce jeudi 9 juin, une révolution dans le secteur automobile. Feu vert pour le tout électrique dès 2035. Terminé les voitures thermiques et hybrides. Une transition qui passe mal chez les constructeurs. L'abstention sera-t-elle le premier parti de France dimanche pour le premier tour des législatives? Dans les sondages, les Français semblent peu emballés. Du côté des députés, 20% jettent l'éponge. On ne sert plus à rien, affirme-t-il. Explication dans ce journal. Et puis, le cri d'alarme des hôpitaux a-t-il été entendu par le gouvernement? Mesures d'urgence annoncé hier. Heures sup payées double, appel aux élèves infirmiers et soignants retraités pour passer l'été. Tous les détails à suivre dans ce journal.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Après le chargeur universel pour les téléphones et les ordinateurs, la fin des voitures thermiques et hybrides à partir de 2035. Le Parlement européen vient de l'adopter hier à Strasbourg, ce qui signifie que dans un peu plus que dans 13 ans, les constructeurs devront passer au tout électrique. Ils auraient préféré un peu plus de souplesse. Aurélien Fleureau.
Cela revient à nous faire courir avec un sac à dos rempli de cailloux. Pour Claude Cham, président d'honneur de la FIEV, qui représente des équipementiers automobiles, l'impact économique pour les entreprises françaises sera majeur.
Nous sommes vent debout contre cette décision, non pas par un esprit, je dirais, passéiste, parce que nous sommes des amoureux du moteur thermique. La seule chose que nous constatons, c'est que nous voulons sauver nos entreprises face à une concurrence internationale, et en particulier une concurrence qui nous vient d'Asie.
Les autres continents n'auront pas les mêmes contraintes, et il faudra, par exemple, trouver des solutions rapides pour créer une filière européenne de fabrication de batteries, alerte Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile, qui représente les constructeurs français.
On cherche à sortir, et c'est une bonne chose, de la dépendance aux énergies fossiles, mais il faut qu'on crée les conditions de pouvoir reprendre de la souveraineté sur ces nouvelles chaînes de valeur. Et là, il y a quand même un grand défi. Faire du 100% électrique la solution unique est un pari.
Un pari aussi pour l'emploi, puisque selon les projections de France Stratégie et de la filière automobile, ce sont entre 50 et 65 000 emplois qui seraient détruits avec la fin du thermique.
Aurélien Fleureau.
À trois jours des élections législatives, abstention record redoutée. Plus de la moitié des électeurs pourraient décider de rester chez eux.
Jusqu'à 56% selon un sondage Ipsos publié hier. Un manque d'intérêt flagrant ou une lassitude de la part des Français vis-à-vis des représentants. Les élus aussi jettent l'éponge. 20% d'entre eux ne se représentent pas. Certains députés veulent simplement quitter la vie politique, comme Jean-Luc Retzer, élu depuis 34 ans. D'autres abandonnent, déçus par le rôle qu'ils ont joué. Arthur Delaborde.
Élu député des Hauts-de-Seine il y a 5 ans sous l'étiquette En Marche, Frédéric Dumas fut l'une des premières à démissionner du groupe parlementaire de la majorité en septembre 2018. Aujourd'hui, elle a choisi de ne pas se représenter.
Quand on nous dit qu'on va avoir un débat au sein de l'Assemblée dans l'hémicycle, il n'y a que le mot, mais pas la substance, puisque on l'a vu à plusieurs reprises, Emmanuel Macron, le président de la République, prend des décisions, les annonce aux 20h et puis nous avons un débat après. Donc en fait, je ne souhaitais pas repartir pour ne pas cautionner tout un système qui est quand même avant tout un décor de théâtre et qui n'est pas aussi efficient qu'on se l'imagine.
Ce sentiment d'impuissance n'est pas sans fondement. Selon Jean-Louis Touraine, après 3 mandats, le député LREM du Rhône a choisi de se mettre en retrait pour ne pas s'incruster définitivement à l'Assemblée, dit-il. Et pendant 15 ans, il n'a pas vu souvent le Parlement être à l'initiative de beaucoup d'avancées.
On côtoie le pouvoir, on côtoie l'endroit où les décisions importantes sont prises et où les grandes orientations, y compris en termes des lois futures, se développent. Mais on n'est pas soi-même véritablement responsable de cela.
Et pour réduire la dépendance des députés vis-à-vis de l'exécutif, Jean-Louis Touraine appelle notamment à organiser des législatives au milieu du quinquennat.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et hier, nouvelle passe d'armes entre la majorité présidentielle et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron a critiqué la polémique lancée par le leader insoumis sur la police qui tue après l'affaire du refus d'obtempérer à Paris samedi dernier. Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu en déplacement à Caen. Ces attaques sont, selon lui, signe de panique à bord.
Et du côté de l'enquête sur ce refus d'obtempérer à Paris, 2 plaintes ont été déposées hier.
Oui, hein, c'est ce qu'annonce l'avocate de la famille de Rayana, la jeune fille tuée par les tirs des policiers. Plainte contre le conducteur du véhicule pour homicide involontaire, mais aussi contre X en visant directement les agents pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et homicide involontaire car plusieurs versions s'opposent dans cette affaire.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. Cette question à présent, le gouvernement arrivera-t-il à panser les plaies de l'hôpital public? En tout cas, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, a fait des annonces hier.
Oui, hein, car on le sait, l'hôpital est au bord de l'implosion. 120 services d'urgence tournent au ralenti ou s'y préparent. C'est l'un des gros chantiers de l'exécutif qui a lancé une mission flash. Mais c'est sans attendre les résultats que Brigitte Bourguignon a dévoilé des mesures d'urgence pour que l'hôpital tienne le choc, au moins pour cet été. Yasmine Akatou, 3 nouveautés à retenir.
Oui, pour stopper l'hémorragie, les départs en cascade de l'hôpital, les heures supplémentaires seront payées double tout cet été. Les agents administratifs, les aides-soignants, les infirmiers et les médecins sont concernés. Par exemple, un infirmier en début de carrière pourra toucher 28 euros net par heure supplémentaire contre 15 euros actuellement. Une mesure déjà utilisée qui ne permettra pas d'attirer du personnel, regrette Thierry Amourou. Il est porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
Faire des heures supplémentaires à l'hôpital, c'est pas rester 1 heure de plus ou 2 heures de plus. C'est venir une journée en plus dans la semaine. Quand vous avez quelques années d'exercice, vous commencez déjà à être usés et vous en rajoutez pas.
Pour remplir les plannings, les soignants retraités qui souhaiteront prêter main forte pourront, grâce à des démarches simplifiées, cumuler pension de retraite et emploi. Enfin, dernière mesure, les élèves infirmiers et aides-soignants n'auront pas à attendre leur remise de diplôme officiel pour exercer. Une annonce qui surprend, puisque les infirmiers contactés disent pouvoir travailler le lendemain des résultats grâce à une attestation de réussite.
Yasmina Katou.
Les EHPAD, toujours dans le viseur de la justice, vaste opération de perquisition hier chez Orpea.
Au siège, mais aussi dans les directions régionales du groupe, en tout, 200 gendarmes mobilisés, procédure dans le cadre de soupçons de maltraitance institutionnelle et d'infractions financières dans ces maisons de retraite, révélées par le livre enquête Les Fossoyeurs.
Et c'est dans ce contexte que le groupe Orpea a rendu hier public les conclusions d'un audit externe commandé après la sortie de cette enquête.
Oui, hein, et elles sont sans appel, elles confirment des comportements fautifs et des dysfonctionnements, notamment dans l'usage des fonds publics reçus. Orpea répond, des procédures disciplinaires sont en cours, des licenciements et mises à pied déjà réalisées.
Vigilance si vous avez prévu un vol ce matin au départ de Roissy, Paris-Charles de Gaulle, grève massive des salariés au sol.
Ils réclament des hausses de salaire 300 euros, sans condition, pour toutes et tous. Conséquence, entre 7h du matin et 14h, un quart des vols sont annulés, soit une centaine.
Du foot pour terminer, nous sommes à la veille de la troisième journée de la Ligue des Nations pour les Bleus, qui sont arrivés hier à Vienne, en Autriche.
Oui, match maintenu par l'UEFA malgré des problèmes de pelouse. L'équipe de France découvrira ce soir le stade Ernest Happel pour un ultime entraînement avant d'affronter l'Autriche. Demain, objectif, victoire après une défaite et un nul. Pour ça, Didier Deschamps pourrait une nouvelle fois procéder à des changements dans l'équipe et pourquoi pas, Cyril de la Morinerie, faire entrer un petit nouveau sur le terrain, Ibrahima Konaté, un grand, très grand rayon de soleil, heureux de rejoindre l'équipe de France.
Oui, ce colosse de 23 ans ne passe pas inaperçu. D'abord parce qu'il est doté d'un physique de gladiateur, 1m94, 84 kg. Mais aussi parce que le défenseur de Liverpool est souriant. C'est d'ailleurs sans langue de bois qu'Ibrahima Konaté a raconté comment il avait appris sa convocation en équipe de France. Il venait de débuter ses vacances.
J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. Je cherchais mon téléphone comme par hasard et je vois deux appels manqués. Et je décide de rappeler parce que je ne connaissais pas le numéro. Et j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant 5 minutes, j'étais perdu un peu. Non, j'étais très heureux.
Depuis ses débuts dans le 11e arrondissement de Paris, Ibrahima Konaté abat les barrières tel un bulldozer. Après Sochaux, il s'envole pour Leipzig, où il devient l'une des attractions du championnat allemand. L'été dernier, le mythique club de Liverpool le recrute. Le finaliste de la Ligue des Champions a pour modèle un certain Sergio Ramos, le défenseur iconique du PSG.
C'est vrai que quand il était au Real de Madrid, avec tous les buts qu'il mettait et ce qu'il apportait à l'équipe, c'est un leader positif. C'est ces choses-là qui m'inspirent aussi.
Ibrahima Konaté espère fêter rapidement sa première sélection et même participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le match Autriche-France, ce sera à suivre demain dès 20h en direct sur Europe 1.
C'est noté. Merci beaucoup Alban Leprince et à tout à l'heure pour le journal permanent.
Il est 5h09 et ce sont à présent les courses de Thierry Léger, le Paris gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 702 Almacado Gris. Quatrième en dernier lieu d'un quintet le 3 mai sur l'hippodrome de Chantilly, face à une opposition certainement bien plus relevée que celle qu'il devra affronter ce soir, il trouve ici des conditions de course idéales qui doivent lui permettre de renouer avec la victoire qui lui échappe depuis plus de 2 ans. Alors notez bien, pour ce soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 2, Almacado Gris.
Merci beaucoup Thierry Léger et vous revenez avec vos pronostics du quintet dans une petite demi-heure. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Ah mais pas seulement, il y a aussi Martin Lange pour le pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux et la révolution électrique en une du Parisien aujourd'hui en France. La fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Comme l'ont voté hier les députés du Parlement européen. Un projet à la une des échos, celui de la nationalisation à 100% d'EDF. C'est l'un des chantiers prioritaires du gouvernement qui réfléchit à une sortie de la bourse pour l'énergéticien français. Voilà qui va coûter cher, d'autant que c'est la fin de l'argent gratuit, comme le titre en une La Croix. Alors qu'emprunter de l'argent ne coûtait presque rien depuis des années, la Banque Centrale Européenne va entamer aujourd'hui le processus de remontée de ses taux directeurs. Omblin, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil ?
Amis fans de Télécrochet, tenez-vous prêts. Une émission d'un nouveau genre fait son arrivée aujourd'hui après The Voice, nouvelle star, Star Academy. Bienvenue à Nouvelle école à un télécrochet, version rap, diffusée sur Netflix.
C'est dans les cultures de tout le monde. Les jeunes vivent avec le rap.
C'est une grosse compète.
On achète nos villes à la recherche de la pépite. Si c'est Paris, hein.
Bruxelles, c'est pour nous.
Bien sûr, à Marseille.
Bienvenue dans la nouvelle école.
Voilà, la nouvelle école, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui vous en parle ce matin. Même principe que ces émissions Grande Sœur avec candidats, auditions et jury. Ils sont trois membres du jury. Ils cumulent plusieurs milliards d'écoutes sur Internet. On retrouve le Parisien Niska, le Marseillais SCH et la rappeuse belge Shay qui entend bien mettre en avant le rap féminin. Aujourd'hui, trop peu représenté, nous dit-elle. Trois poids lourds donc du rap d'aujourd'hui à la recherche de la nouvelle pépite. Et donc, on peut s'attendre à un affrontement. Chacun prêt à défendre son candidat ou ses candidats préférés et les candidats qu'ils sont allés eux-mêmes dénicher dans leur fief. Enfin, Bruxelles... Île-de-France
Bruxelles
et Bouches-du-Rhône.
D'après, je l'ai appris en écoutant une radio concurrente qui est le nouvel épicentre du rap.
Exactement. Et tous les trois se rejoignent sur un point essentiel, faire avancer le mouvement, faire de la communication sur le rap. C'est important, impossible donc pour ces amoureux de la musique de dire non aux géants américains. En fait, Nouvelle École est une adaptation d'un programme venu des États-Unis, mais on nous promet une déclinaison qui tiendra compte des spécificités locales et des spécificités belges. Et française, pas de contrat à la clé avec une maison de disques, mais un beau chèque de 100 000 euros pour le ou la vainqueur, là ou le vainqueur plutôt, une somme qui l'aidera pour investir dans des clips et des sessions d'enregistrement en studio. Nouvelle École, ça commence donc aujourd'hui sur la plateforme Netflix avec les 4 premiers épisodes. 3 autres seront disponibles jeudi prochain. La finale aura lieu le 23 juin et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle ce matin.
En fait.
Exactement. Et
d'accord.
Si c'est une réussite, il y aura sans doute une saison 2. Mais Minute Papillon, attendons.
Merci Ombline. Affaire à suivre.
Voilà.
À Martin, à vous.
Oui, on vous parlait la semaine dernière du nouveau pass imaginé par la coalition au pouvoir en Allemagne. 9 euros par mois qui vous donne accès à tous les transports en commun et les trains régionaux du pays. Une petite révolution qui vise à éloigner les Allemands de leurs voitures et surtout du pétrole russe. Alors le week-end dernier, avec la Pentecôte, hein, devait être un test grandeur nature. Tout le monde s'attendait à une ruée sur les plages, notamment la très chic île de Sylt, la reine de la mer du Nord, une riche station balnéaire, une sorte de Deauville à l'allemande. Mais les insulaires ont eu la très mauvaise surprise de voir débarquer des milliers de punks.
C'est doux, hein.
C'est doux, exactement, ça réveille. Depuis ça. Quelques jours, ils ont pris possession de la ville, Iroquois sur le crâne, canette de bière à la main, ils hurlent des slogans anarchistes en écoutant du rock alternatif.
Il y a des chiens aussi.
Il y a des chiens, je crois, enfin, d'après les photos en tout cas. Beaucoup n'avaient jamais vu la mer, hein. Grâce à leur nouveau pass à 9 euros, ils ont réussi à rallier l'île depuis Berlin en moins de 8 heures. Et ils s'y plaisent, hein. Ils rêvent d'en faire un nouveau Woodstock. L'été ne fait que commencer, témoigne l'un d'entre eux sur les réseaux sociaux, hein, pour le plus grand malheur des autochtones.
Mais il n'y a pas qu'à Sylt que le nouveau pass a posé problème.
Oui, des quais bondés dans les gares de Cologne, Hambourg ou Berlin. La police est obligée d'intervenir pour les faire évacuer. Trop de voyageurs munis de leur passe, trop de vélos aussi, et ça, ce n'était pas prévu. Plus de 400 trains en surcharge, dont certains ont dû être vidés pour des questions de sécurité. Bref, le premier week-end du pass a été un vrai chaos, raconte Libération. Si le ministre des Transports reste optimiste, persuadé que cette opération a de l'avenir, les experts sont eux beaucoup plus dubitatifs. Ils dénoncent une opération marketing feu de paille, hein, décidée à la hâte. Il faut dire que le réseau de chemin de fer allemand est déjà dans un piteux états, seuls 59% des trains arrivent à l'heure. Résultat, les utilisateurs sont furieux. Selon ces mêmes experts, les 2,5 milliards d'euros qui financent le pass auraient été plus utiles pour la rénovation des voies ou du matériel roulant. Le gouvernement
Scholz... Ça coûtera plus cher que ça, je pense.
Ah, ça, sûrement. Si vous le dites, le gouvernement Scholz s'est fixé comme objectif de doubler le nombre de passagers dans les trains à l'horizon 2030, mais personne n'y croit. Et cet été, hein, les habitués devront payer un supplément première classe pour éviter la foule estivale et les punks.
Oh, éviter la musique aussi.
Allemagne, avec les trains à 9 euros, les punks plongent dans la jet set, c'est à lire sur le site de Libération.
Il n'y a pas que le rap et le R&B, hein, s'il vous plaît. Hein. Non, mais je dis ça, c'est parce que je crois qu'on dépense 10 milliards par an. En France, pour rénover notre réseau, donc c'est pour ça que
vu
la taille de l'Allemagne
et
le nombre d'Allemands, ça doit être un peu plus.
C'est vrai.
Merci Martin. J'ai choisi là aussi une question de mobilité et une question hautement sensible à vous poser ce matin. Est-ce qu'il vous arrive d'emprunter à vélo des pistes cyclables ?
Ah oh bah oui, souvent.
Bah oui, très souvent.
Ouais, ouais.
Et ça va, tout s'est bien passé dernière fois ?
Bah oui, oui.
Ouais, ça dépend à quelle heure. Voilà, aux heures de pointe, c'est jamais très agréable, mais.
Oui.
Mais ça dépend des axes.
Mais ça roule.
Vous n'êtes jamais senti agressé ou oppressé parce que vous êtes une femme sur une piste cyclable?
Je suis une femme? Non, jamais. Non.
Non, bah alors voilà un peu embêté parce que je n'ai donc aucune idée de ce qu'a bien voulu dire dans un tweet un élu lyonnais. Tweet dont le contenu et les interrogations qui l'accompagnent sont rapportés ce matin à la fois dans le Parisien et dans le Figaro. Nous sommes dimanche dernier quand Fabien Bagnon, c'est son nom, l'un des vice-présidents de la métropole de Lyon, dirigé par des écologistes, se félicite sur le réseau social, photo à l'appui, de voir un cycliste emprunter le premier tronçon de la première voie lyonnaise, un réseau de pistes cyclables mis en place par la métropole. Dans son enthousiasme, l'élu invite dans un message deux hommes dont le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, a essayé eux aussi le nouvel équipement. Première erreur, puisque Fabien Bagnon est immédiatement interpellé par Femmes en Mouvement, une association féministe qui fait remarquer à l'élu lyonnais que son tweet est maladroit, vu qu'il n'a invité que des hommes à venir tester la piste cyclable. Désolé de ne pas avoir été attentif à la parité, s'excuse immédiatement le maladroit. Puis vient ce troisième tweet, celui qui suscite quelques interrogations. Fabien Bagnon explique qu'un collectif de vélotaffeuses, de femmes qui utilisent leur vélo pour se rendre quotidiennement à leur travail, participe aux réunions techniques des voies lyonnaises pour concevoir, je cite, des pistes cyclables non genrées et donc inclusives. Je répète, des pistes cyclables non genrées et donc inclusives. Kézako, qu'a donc voulu dire le vice-président de la métropole de Lyon? Discours perché, discours fatigant, voulant créer un rapport de force permanent. Voici quelques-unes des réactions d'internautes excédés et interloqués. Pourquoi fourrer le mot genre partout et surtout n'importe où, demande notamment une cycliste. Faites des pistes toutes simples, dit-elle, le reste on s'en fout. Attaqué, raillé, l'élu vert est sommé de préciser sa pensée, ce qu'il fait plus ou moins, c'est la possibilité d'avoir des pistes cyclables suffisamment larges et sécurisées pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de se déplacer avec leur vélo adapté. Alors ça c'est pour l'inclusivité, d'accord, mais quid du non-genré? Eh bien c'est, je cite, chercher à identifier ce qui peut freiner l'utilisation d'une piste cyclable par un genre. Mais en quoi les hommes auraient-ils empêché le développement du vélo chez les femmes, se demande la journaliste du Figaro. Dans les couloirs de la métropole lyonnaise, dit-elle, on a bien du mal là aussi à décrypter la pensée de Fabien Bagnon. On va créer 250 km de pistes cyclables sécurisées car séparées du reste de la circulation, répond la métropole, si bien que tout le monde pourra les utiliser en toute sécurité, les hommes comme les âmes, comme les femmes, en somme comme des pistes cyclables normal.
Voilà.
Genré donc, si je comprends bien. Et Lyon créa les pistes cyclables non genrées, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro.
Non mais il y a le genre piste voiture et peut-être le genre piste vélo.
Ouais, ça devient un peu compliqué
ouais,
là. Hein.
On comprend plus.
Surtout à 5h20.
Merci beaucoup Julien. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour un journal des sports.
À tout à l'heure.
Non, non genré, évidemment.
Voilà.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, votre radio non genrée. Les principaux titres avec Alban Le Prince.
Et cette révolution en vue dans le secteur automobile avec la fin de la vente de véhicules thermiques et hybrides neufs à partir de 2035. Mesure adoptée par le Parlement européen. Hier, les constructeurs devront, à cette échéance, passer au 100% électrique. Alors que 120 services d'urgence tournent au ralenti ou s'y préparent, faute de bras, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, a dévoilé hier des mesures d'urgence pour passer l'été. Heures sup payées double, recrutement immédiat des élèves infirmiers et appel aux soignants retraités. Vaste opération de perquisition chez Orpea hier au siège, mais aussi dans les directions régionales du groupe. 200 gendarmes mobilisés dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de maltraitance institutionnelle et d'infractions financières. Et puis série d'auditions aujourd'hui au Sénat sur les incidents de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Didier Lallement, préfet de police de Paris, sera entendu en premier, suivi de la Fédération française de foot, puis des responsables de la sécurité et de l'accueil du stade.
Europe 1. Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1, 5h20. Les initiatives en France à présent, la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Olivier Totti.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président d'Aqua Itineris France, une association qui sillonne le pays pour permettre aux petits et aux plus grands également d'apprendre à nager. Mais au lieu d'emmener tout ce beau monde à la piscine municipale, eh bien vous amenez la piscine à eux. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est un concept assez simple. On a cherché de la mobilité pour aller sur tous les territoires, ou surtout ceux où ils étaient privés de piscine. Donc on a trouvé comme moyen de se déplacer un camion, une semi-remorque. Et dans cette semi-remorque, on a installé une piscine, mais pas seulement. On a fait un équipement tout intégré avec des vestiaires, des sanitaires, la douche obligatoire avant d'aller dans le bassin.
Et elle est grande cette piscine? Parce qu'on imagine que la place est relativement restreinte dans un semi-remorque.
Alors, est-ce qu'elle est grande? Eh bien, écoutez, j'aurais envie de dire oui, puisque vous savez qu'on peut se noyer déjà rien que dans une flaque. Et nous, c'est plus qu'une flaque, puisqu'on a un bassin qui fait 8 mètres de long par 2 mètres de large.
Ah oui, c'est quand même relativement conséquent. Et je crois savoir d'ailleurs que le plancher du bassin est réglable, ce qui est pratique, notamment pour les jeunes enfants.
C'est une innovation, effectivement, que nous avons intégrée dans notre camion pour faciliter l'apprentissage et éviter de former en stressant les personnes. Puisqu'on les accueille, les enfants comme les adultes, avec 5 cm d'eau pour les acclimater à l'eau. Et ensuite, on va augmenter la profondeur du bassin en descendant notre plancher.
Comment vous est venue cette idée, un peu folle sur le papier, je me le permets mais de le dire, mais de mettre une piscine dans un camion?
Ben en fait, le besoin s'est fait ressentir tout d'abord dans des missions humanitaires au Moyen Atlas. Mon ami Jean-François Buisson s'occupait de cela et s'est trouvé dans une situation où il devait apprendre la natation à des sauveteurs. Ils n'avaient pas de piscine sur place. Donc, il a eu cette idée, il a pu développer ce camion à son retour en Suisse. Et on s'est rencontrés, on a constaté qu'il y avait cette problématique également en France. Pas dans les mêmes proportions, mais on a quand même 30% de nos enfants qui rentrent en 6e qui ne savent pas nager. Et on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le développe, ce camion, qu'on le mette sur la route et qu'on aille au plus près des utilisateurs.
Les noyades, ce sont environ 1000 décès par an. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. On est en retard en France sur ce sujet.
La problématique dans certains pays est légèrement différente. Si vous prenez par exemple l'Espagne, ils ont un nombre de piscines privées chez les particuliers qui est plus important par exemple qu'en France. Donc ils ont une sensibilité à l'apprentissage qui est différente. Effectivement, notre taux en France est assez surprenant dans un pays dit développé, mais les causes sont multiples et je crois qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il faut surtout trouver le moyen de se mettre en action et d'œuvrer pour éviter ces drames.
Vous nous avez dit 30% des enfants entrant en 6e ne savent pas nager. J'imagine que la crise sanitaire que l'on vient de vivre et qu'on continue à vivre avec la fermeture des piscines n'a pas arrangé le problème.
Bien au contraire, oui, vous l'avez vu encore cet été. Et puis, vos confrères et vous-même, Europe 1, en avez parlé de cette inquiétude que pouvaient avoir les nageurs sur les risques. Ça s'est révélé, heureusement, pas aussi dramatiquement que ce qu'ils annonçaient. Oui, on constate qu'il y a un vrai manque, qu'il y a un vrai retard dans l'apprentissage des enfants.
Vous vous installez principalement en zone rurale?
Oui, mais les prochaines destinations, il y en a certaines qui vont être en plein centre-ville. Une ville, en l'occurrence, où il y a déjà des piscines, mais il n'y a pas assez de lignes d'eau. Et il s'agit d'aller soutenir l'existant déjà des piscines pour trouver le moyen d'apprendre aux autres enfants qui n'y ont pas accès.
Ce sont les collectivités qui font appel à vous?
Uniquement. Je profite de ce passage à l'antenne pour dire oui, les particuliers nous appellent. Vous avez envie de nous appeler, nous demander de venir apprendre à vos enfants à nager. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à la demande de chaque particulier. Adressez-vous à votre mairie et la mairie va revenir vers nous pour organiser un passage du camion.
Pour conclure, j'imagine que de voir entrer dans votre semi-remorque des enfants qui ont peur de l'eau et qui, quelques jours plus tard, barbotent avec bonheur et nagent comme des champions, c'est une magnifique récompense.
C'est génial pour toute l'équipe de bénévoles que nous sommes, puisque nous sommes une association. Aujourd'hui, le plus difficile pour nous, c'est de trouver les moyens de fonctionner, comme toujours, comme pour beaucoup d'associations. Voilà, vous pourrez retrouver un tas d'informations sur notre site internet www.aqua.itineris.fr et entre autres la possibilité de nous aider.
Merci infiniment Olivier Totti de nous avoir partagé votre belle initiative, ce semi-remorque avec une piscine intégrée qui sillonne le pays pour faire reculer le nombre de noyades. Je rappelle le nom de votre association, Aqua Itineris France. Bonne journée à vous.
Merci Julien.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour, bon réveil, merci de nous avoir choisis pour ce petit matin. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre avec au menu une information européenne, je n'en dis pas plus. Et puis on va se replonger ce matin dans l'univers de Jurassic Park.
Oui, le nouveau film Jurassic World est dans les salles de cinéma depuis hier. Et nous ce matin, eh bien, on vous emmène visiter l'exposition Le Temps des Dinosaures qui se tient en ce moment à Paris, un événement familial pour nous raconter à nouveau l'ère du règne des dinosaures à l'aide de 50 spécimens à taille réelle. Mais pourquoi nous fascine-t-il autant? On posera la question dans un quart d'heure à notre invité Manu Braff qui est à l'origine de l'exposition.
Et juste après, on va parler d'une boisson alcoolisée particulièrement appréciée et associée à l'été.
Oui, Olivier Pouls à 6h10 vantera les mérites du rosé, une spécificité française.
Rosé piscine.
On lui sert quoi, Anissa Dadi?
Ah bah rosé piscine.
Avec glaçon.
Oui, oui. Alors peut-être pas 5h28, mais dans la journée.
Vous avez une tête à aimer le rosé pêche.
Vous l'aromatisez avec du sirop.
Ah, c'est horrible.
Non, ça on bannit.
Bon, la journée commence bien pour certains, ma chère Anissa.
Alors, ça va bien commencer pour les Bretons, pour les Normands, pour les Nordistes, pour les Franciliens et même jusqu'aux Girondins. Donc, sur un grand quart nord-ouest du pays, le jour se lève avec un beau soleil et ça va durer toute la journée. Plus à l'est, entre la Lorraine et les Alpes, là, on a encore quelques petites averses ce matin. C'est la perturbation d'hier qui est en train de s'évacuer par le nord-est. Il reste encore quelques petites averses. En Occitanie, on a pas mal de nuages ce matin. Et puis au bord de la Méditerranée, alors là, c'est agréable. Hein, le soleil est au rendez-vous, le ciel est dégagé, mais on a beaucoup de vent, encore plus qu'hier, avec Mistral et Tramontane jusqu'à 90 km/h. Cet après-midi, du beau soleil sur le littoral atlantique. La journée est agréable sur une grande partie du pays, sauf en Alsace, dans le Doubs, sur le territoire de Belfort. Là encore, on a des petites averses cet après-midi. Puis on a de la neige, des flocons sur les Alpes du Nord à 2300 mètres d'altitude. 11 à Rennes ce matin, 13 à Paris, 19 à Nice et cet après-midi, 18 au Havre, 20 à Paris, 22 à Bordeaux, 28 pour Marseille et jusqu'à 29 à Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, le désarroi des supporters de Liverpool après les incidents du Stade de France. C'est une information Europe 1. La justice française ne peut pas enregistrer leurs plaintes faute de formulaire adapté. Explication dès le début de ce journal. La campagne pour les élections législatives et le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Tarn cet après-midi. Le président parlera sécurité dans le monde rural. Et puis décrocher un job grâce au sport. Fini l'entretien d'embauche entre quatre murs. Pôle emploi propose aux recruteurs et aux futurs salariés de se rencontrer sur un terrain de sport. Reportage.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça ressemble à un couac judiciaire. L'image de la police française auprès des Anglais pourrait bien en prendre un coup. Elle n'avait pas vraiment besoin de ça après les incidents du Stade de France. Et c'est justement de cela dont il s'agit. Les supporters de Liverpool avaient obtenu la garantie de pouvoir porter plainte une fois rentrés chez eux. Et des fonctionnaires français ont même été envoyés en Angleterre. Mais selon nos informations, l'opération à ce stade est un échec. Anaïs Cordoba.
Oui, parce que le formulaire de déclaration de plainte n'est pas du tout adapté. C'est un formulaire ordinaire pour des circonstances habituelles de plainte de touristes, mais rien ne correspond en première intention à ce que les supporters anglais ont subi. Par exemple, dans la catégorie lieu des faits, il y a hôtel ou musée, mais pas Stade de France. Il faut donc le rajouter par soi-même à côté de la case autre lieu. Avoir été aspergé de gaz lacrymogène ne figure pas non plus en tant que tel dans la liste des infractions subies. Autre problème, à Liverpool, aucune info n'a été communiquée sur la présence des policiers français venus recueillir les plaintes, comme en témoigne Mohan, un responsable d'une association de supporters.
Nous avons su de bouche à oreille qu'ils étaient là, mais personne ne nous a approchés officiellement. Donc on se demande, est-ce juste une opération de com ou est-ce vraiment réel ? On n'en sait rien. Et là, la confiance est au niveau zéro sur tout ça. Comment pouvons-nous faire confiance à la police française ? Qui enquête sur la police française.
Selon nos informations, ces policiers envoyés à Liverpool ne seraient en fait toujours pas opérationnels. La raison, la France ne peut pas recevoir de plainte légalement à Liverpool car elle n'a pas de local diplomatique sur place et serait encore en attente de l'accord des autorités locales pour habiliter un lieu.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres avec les services de William Molinier du service police-justice de la rédaction.
La campagne pour les élections législatives, J-3, premier tour, qui pourrait se résumer à un duel entre la Macronie et l'Union de la gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon.
Et à trois jours du vote, l'écart entre la majorité présidentielle et la NUPES semble se resserrer. C'est en tout cas ce qu'indiquent les sondages. Emmanuel Macron sonne donc la charge contre Jean-Luc Mélenchon, désigné adversaire principal de ce scrutin. Le président était à Clichy hier en région parisienne pour parler sécurité, thème qu'il abordera aussi aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement à Gaillac dans le Tarn, Jacques Serret.
Oui, Emmanuel Macron veut évoquer la sécurité du quotidien en zone gendarmerie. L'occasion surtout pour lui de revenir sur une annonce qu'il avait faite en janvier dernier, la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades sur l'ensemble du territoire. Des brigades fixes qui s'appuieront sur les maisons France Service ou mobiles grâce à des véhicules équipés qui pourront par exemple proposer la possibilité de déposer plainte. Trois de ces nouvelles brigades doivent être déployées dans ce département. Le président compte détailler cette mesure qui fera partie de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, comme s'il souhaitait finalement prendre le contre-pied de l'épisode du Stade de France et du décès d'une passagère à Paris après un refus d'obtempérer.
Alors Gaillac ce matin, puis celle-ci cet après-midi, ce sont les deux communes que le président s'apprête à visiter. Elles ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de la présidentielle. Il y a peut-être un enjeu politique derrière ce choix.
À trois jours du premier tour des législatives, clairement oui, Emmanuel Macron vise les électeurs de gauche, ceux qui hésitent encore à voter pour l'alliance emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Ses propos sur la police peuvent en refroidir plus d'un, et le président qui veut à tout prix renouveler sa majorité à l'Assemblée le sait. Pour cela, rien de tel que de continuer à diaboliser le leader des Insoumis, stratégie dont on espère dans l'entourage présidentiel qu'elle fonctionne tout aussi bien pour les électeurs de droite en relançant l'idée d'un vote utile.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
La voiture essence ou diesel, c'est bientôt fini, ainsi en a décidé l'Union européenne.
Et le Parlement européen vote la fin des véhicules neufs thermiques. En 2035, ils seront interdits à la vente. Seules les voitures à batterie électrique ou à hydrogène pourront être vendues. La grève à l'aéroport de Roissy, le personnel réclame une hausse de salaire de 300 euros. Conséquence, une centaine de vols sont annulés aujourd'hui, mais le malaise est général et touche tout le secteur aérien. À Amsterdam et Francfort, les sous-effectifs ont également obligé les compagnies à annuler une centaine de vols pour les syndicats. Le secteur paie les conséquences des plans de licenciement massif enclenchés pendant la pandémie.
Oui, d'ailleurs, la compagnie EasyJet a supprimé des sièges dans certains de ses A319 britanniques pour pouvoir mettre une hôtesse de l'air en moins, c'est dire la pénurie. Le procès des attentats du 13 novembre à Paris, avec un moment très attendu, celui du réquisitoire.
Et 9 mois après l'ouverture de ce procès qualifié d'historique, 20 accusés, dont 6 sont jugés en leur absence. Procès hors norme par sa durée. Le réquisitoire s'inscrit dans cette logique. Il s'étale sur 3 jours. 3 magistrats ont prévu de se succéder pour clarifier le rôle de chacun des accusés. Hier, l'avocat général a d'emblée fixé le cadre. Compte rendu d'audience, Marion Gauthier.
Une touche de rouge et noir au-dessus de la salle muette. L'avocate générale se dresse dans sa robe face à la cour. Que retiendra-t-on de cette audience ? Interroge Camille Entier. Votre verdict, répond-elle, la liste des disparus, le récit des survivants, une somme incommensurable de malheurs qu'elle décrit avec profondeur, elle qui était en 2015 à la tête de la section antiterroriste du parquet de Paris, elle qui s'est rendue sur les lieux des attentats le soir du 13 novembre. Elle oppose l'éloge de la vie à l'éloge de la mort, la rage de vivre des victimes à la cruauté des terroristes qui tirent au coup par coup. Avec délectation, sa voix est douce, certaines parties civiles présentes retiennent leur souffle. Camille Entier souligne les efforts fournis pour la tenue d'un procès normal pour des faits qui ne le sont pas. La justice à tâtons face au mutisme des accusés. La réponse à toutes les questions qui nous taraudent est dans le box, lance-t-elle. Ils savent presque tout, mais ils se tairont jusqu'à la mort. Les avocats généraux ont 3 jours pour reconstituer le puzzle. Ils doivent réclamer des peines à l'encontre de chacun des 20 accusés ce vendredi.
Marion Gauthier, les plaidoiries de la défense débuteront lundi prochain. Verdict attendu le 29 juin.
Faire du sport pour trouver un travail. Pôle emploi a lancé une initiative plutôt originale pour mettre en contact les recruteurs et leurs futurs salariés.
Pas de table, pas de chaise, pas de bureau. Oubliez l'entretien d'embauche classique entre 4 murs. La rencontre se fait sur un terrain et subtilité supplémentaire de façon anonyme, chômeur et recruteur, personne ne sait qui est qui. L'opération s'appelle « Du stade vers l'emploi ». Geoffrey Banger a pu assister à une de ses séances au stade municipal Jean-Pierre Gacherie dans le 12e arrondissement. Reportage.
Ils sont 200 sur la pelouse, en jogging et basket. Dans chaque équipe, une grande majorité de demandeurs d'emploi, comme Dylan, qui cherche du travail dans la sécurité.
C'est pas très conventionnel comme type de recrutement. Pour une fois, on voit des gens qui recrutent. Faire d'autres choses qu'être à un bureau et recevoir des candidatures.
Mais aussi dissimuler anonymement des recruteurs comme Géraldine Toledano qui vient pour la RATP.
Je viens chercher des compétences qu'on ne visualise pas toujours en entretien. L'esprit d'équipe, la cohésion, les personnes plus leaders que d'autres.
Une fois les épreuves d'athlétisme terminées et la glace brisée, les recruteurs se révèlent et les demandeurs d'emploi se présentent. Le stade se transforme alors en une étrange annexe de Pôle emploi. Pour Gaël, qui représente une grande enseigne de fast-food, cette approche change tout.
Dans un bureau, c'est plus bonjour, ok, bah asseyez-vous, remplissez-moi ce papier, d'accord, vous faites quoi ? Je regarde le CV, je découvre. Mais après, on ne sait pas comment les gens sont derrière.
Pour Nadia, qui veut travailler dans la restauration, cette manière de faire est rassurante.
Là, l'entretien, bah, on le passe détendu. Il n'y a pas le côté hiérarchique.
Pas de signature de contrat à la fin de la journée. Il faudra d'abord que candidat et employeur se revoient lors d'un entretien plus traditionnel.
Un reportage Geoffrey Branger. Le football, Lyon va-t-il passer sous contrôle américain ? C'est ce que croient savoir nos confrères de l'équipe. Foster Gillette, c'est le nom de cet investisseur, serait sur le point de débourser 600 millions d'euros pour devenir l'actionnaire majoritaire du club. Jean-Michel Aulas resterait aux commandes pour 3 ans avant de céder sa place.
Le bouchon lyonnais à l'heure McDo. On aura tout vu. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. Les courses à présent, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce Quintet à handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 1 Cour du Roi, 7 Régalien, 9 Lily Rose et 10 Il Sogno, classés dans cet ordre aux 4 premières places d'un quintet similaire le 12 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront ce soir. Derrière ces 4 priorités, je vous recommande Centenario, le numéro 11, lauréat sans aucune émotion de la deuxième épreuve de ce quintet référence disputé le 12 mai à Longchamp et qui me paraît capable de franchir un nouveau palier, avec Sakara, le numéro 14, dont la dernière tentative, le 1er mai à Madrid, dans la poule d'essai des poulains espagnols, est certainement bien meilleure qu'il n'y paraît. Enfin, les numéros 15, Kietli Confidente, et 12, Mamalina, compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 7, 9, 10, 11, 14, 15 et 12.
Merci beaucoup Thierry Léger, et vous retrouvez bien sûr dès maintenant les pronostics de Thierry sur Europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. C'est le jour où, à présent, les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
On vous parlait en début de semaine du 78e anniversaire du débarquement en Normandie qui marque le début de la libération de la France. Mais quelques jours seulement après, avait lieu le massacre d'Oradour-sur-Glane, le plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. Bonjour Nina Droff.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
643 habitants de cette petite commune de Haute-Vienne sont exécutés le 10 juin 1944.
14h à Oradour-sur-Glane, de nombreux habitants sont sortis faire leurs courses quand 200 soldats allemands de la division d'Asreich, en route vers le front de Normandie, font irruption dans ce bourg à 20 km de Limoges. Armes au poing, les troupes forcent les habitants à se rassembler sur le champ de foire. Personne ne panique pour autant, les soldats parlent d'un contrôle de routine. Mais rapidement, l'atmosphère bascule, les soldats isolent les hommes, des femmes et des enfants. Les premiers sont menés vers des granges, des garages, où ils sont exécutés. Un moment d'horreur gravé dans la mémoire de Robert Ebras, 19 ans à l'époque. Il échappe à la mort, providentiellement protégé par le cadavre d'un ami tombé sur lui.
Ils ouvrent le feu dans tous les lieux d'exécution d'hommes en même temps. Il se passe quelques fractions de secondes à se me demander ce qui se passe. Ils montent sur nous, tous ceux qui voient qu'ils ont un bain de vie, c'est le coup de grâce. Et puis on nous couvre de tout ce qui peut brûler qui est dans la grange, on met le feu sur nous.
Les femmes et les enfants sont conduits à l'église du village et ils sont enfermés. Les Allemands tentent d'abord de faire exploser le bâtiment, en vain. S'ensuivent alors des fusillades, des jets de grenades dans la nef pour achever la population. Seule une femme, Marguerite Roufanche, parvient à s'en sortir. Elle témoignera 22 ans plus tard au micro Europe 1 du journaliste Maurice Bruzek.
Comment avez-vous pu vous échapper?
Je me suis cachée derrière l'hôtel par un escabeau. J'ai pu sortir, le vitrail était cassé. J'ai sauté par ce vitrail, c'est comme ça que je me suis enfuie. J'ai perdu tous les miens, 5 personnes.
Au total, seules 7 personnes survivent à ce massacre.
Et aujourd'hui encore, les traces de ce drame sont encore visibles. Les ruines du village ont été laissées quasiment telles quelles depuis.
Oui, c'était le souhait du général de Gaulle. Il explique d'ailleurs cette décision aux habitants lors d'une visite d'Oradour-sur-Glane.
Ce drame-là est un de ceux qui consacrent une localité comme la vôtre. C'est un témoin, c'est un symbole.
Alors un nouveau village est construit à côté des ruines, mais la renaissance n'est pas immédiate, le traumatisme persiste, comme le raconte l'ancien maire d'Oradour-sur-Glane, Robert Lapuelle.
L'État a reconstruit un nouvel Oradour, 300 maisons qui sont restées vides pendant 20 ans, parce que les familles n'avaient pas envie de voir revenir la vie à côté de la cité martyre. C'était quelque chose de difficile.
Au début des années 80, la mort de l'unique rescapée de l'église, Marguerite Roufanche, sert de prise de conscience pour certains habitants. Là naît l'idée de créer un centre de la mémoire à Oradour-sur-Glane. Marcel Dartout est un des survivants.
Qui va le transmettre? Qui mieux que le centre de la mémoire? Parce que le bouche à oreille, nous nous sommes aperçus que ça faisait des erreurs épouvantables. Et c'est de notre faute. Parce que pendant au moins 30 ans, c'était presque une honte de parler de la guerre. On a voulu oublier et on a commencé à en parler.
Depuis son ouverture en 1999, le Centre de la mémoire d'Oradour reçoit chaque année plus de 300 000 visiteurs.
Merci beaucoup Nina Droff. Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Une exposition qui nous ramène au temps des dinosaures.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h44 sur Europe 1, excellent début de matinée à tous. C'est l'événement cinéma de cette semaine. La sortie du nouveau film Jurassic Park, intitulé Jurassic World, le monde d'après. Et pour satisfaire la curiosité les plus jeunes d'entre nous, on vous emmène ce matin à la porte de Versailles pour admirer des dinosaures presque en vrai et grandeur nature.
Bonjour Manu Braff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le producteur et le promoteur à l'origine de l'exposition « Le temps des dinosaures » qui se tient en ce moment à la porte de Versailles à Paris. Alors pour commencer simplement, racontez-nous un peu cette exposition et ce qu'on y voit.
Le temps des dinosaures, c'est une plongée dans l'univers des dinosaures. Donc l'idée ici, c'est que dès que vous arrivez à la porte de Versailles, quand vous arrivez dans la salle, vous faites un plongeon 65 millions d'années de temps et vous retrouvez à l'époque des dinosaures. Alors, l'idée du temps des dinosaures, c'est de raconter l'histoire des dinosaures dans leur entièreté, qui ont vécu pendant plus de 250 millions d'années. Et à travers ce parcours, on essaie d'emmener le public justement dans le temps, mais aussi dans une histoire qui raconte un petit peu l'histoire des dinosaures du début à la fin, si vous voulez.
Alors les jeunes explorateurs se mettent dans la peau d'un archéologue, hein. C'est ainsi que commence, comme vous le dites, cette immersion, cette aventure. Qu'est-ce qu'ils apprennent pendant cette exposition ?
Une des idées que j'ai eues avec mon équipe pour le temps des dinosaures, c'est de pouvoir proposer une découverte qui se fait à travers plusieurs âges. Parce que vous le savez, les enfants, même qui sont des enfants jusqu'à un certain âge, il y a une curiosité qui est différente selon l'âge de l'enfant. Et donc l'expérience, le temps des dinosaures, peut se vivre déjà pour les plus jeunes à travers un parcours qu'on appelle le parcours du Dino Ranger, où vous pouvez découvrir le parcours du temps des dinosaures avec des questions, avec un jeu de pistes qui vous permet en bout de course de devenir un vrai Dino Ranger, entre guillemets. Mais c'est très gai et ça permet d'éveiller la curiosité de l'enfant. Alors maintenant, pour les enfants un peu plus âgés, qui ont déjà une curiosité scientifique plus développée, si vous voulez, il y a une application que vous pouvez suivre à travers tout le parcours qui vous raconte l'histoire de chacun des dinosaures qui se trouvent là, à travers, en effet, la voix d'un paléontologue et de ses apprentis en herbe.
Oui, l'idée, c'était de faire quand même, c'est de faire une exposition familiale qui s'adresse donc à différents spectateurs d'âge également différents, des plus petits aux plus grands, et même des parents, évidemment.
Tout à fait, c'est de donner une immersion complète, si vous voulez, dans l'univers des dinosaures et qui puisse intéresser autant l'enfant plus jeune que le papa ou la maman qui se promène avec ou les grands-parents, que tout le monde y ait un petit peu pour son compte, si vous voulez.
Mais comment fait-on pour raconter l'ère du règne des dinosaures à hauteur d'enfant ? Est-ce que c'est si différent d'une exposition dédiée à un public adulte ?
Écoutez, moi j'ai pu déjà visiter pas mal d'expositions et de musées dans le monde, autour du monde des dinosaures, et donc c'est un petit peu le fruit de nombreuses années d'expérience dans cet univers-là. Et on se rend quand même compte, enfin moi je me rends compte quand même que les dinosaures font partie d'un univers qui fascine autant les adultes que les enfants. Pour différentes raisons aussi, hein. Il y a des raisons écologiques, il y a des raisons de curiosité par rapport à l'histoire du monde, mais il y a aussi juste le fait d'être impressionné par des animaux qui faisaient 6, 7, parfois même 12 mètres de haut, et auxquels aujourd'hui on arrive difficilement à s'imaginer. Enfin on voit peut-être un éléphant ou une girafe, mais à la limite, c'est tout ce qu'on verra aujourd'hui qui se rapproche un petit peu de la taille de ces êtres extraordinaires.
Oui, ce sont des spécimens à taille réelle, hein, que vous présentez. Ils bougent, ils respirent, ils grognent. Et c'est parce qu'ils sont monstrueux, je veux dire, dans la taille, qu'ils fascinent autant aujourd'hui ces dinosaures. Est-ce que, on l'a évoqué un peu plus tôt, la saga de film Jurassic Park a aidé aussi à cette fascination pour ces espèces disparues, ces dinosaures ?
Oui, c'est vrai que les effets spéciaux et ce qu'on a pu reconstituer les dernières années en termes de comment on imagine que ces dinosaures étaient, allumaient l'imagination de beaucoup de gens, bien évidemment, et ce type d'exposition, évidemment, en fait partie. Mais je crois que ce qui est le plus incroyable, c'est le fait que ces dinosaures sont vraiment à la limite de la science et de l'imagination. Et c'est que quelque part, on a beaucoup de preuves de leur existence. Mais il y a quand même un côté qui est sidérant finalement pour tout le monde de se dire il fut un temps où ces animaux régnaient seuls sur Terre ou seuls sans les êtres humains, j'entends, et que c'était un univers que nous n'avons pas connu, mais qu'on peut uniquement s'imaginer à travers des fossiles ou quelques décors naturels aujourd'hui qu'on découvre, mais dans lesquels voilà, on peut uniquement utiliser notre imagination ou la science ou bien le cinéma.
Vous l'avez dit, il y a une part de rêve et pour favoriser cette imagination dans cet espace de 3000 mètres carrés en plus de ces spécimens, de ce
cet immense tyrannosaure, vous avez reconstitué aussi la nature luxuriante, l'environnement d'il y a 200 millions d'années. Et pour créer cet univers du Jurassique, vous avez travaillé avec des scientifiques, avec des paléontologues ?
On a travaillé avec des paléontologues, on a travaillé aussi avec des scénographes, hein, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une exposition dans laquelle on aime bien immerger tout le monde dans un univers très spécial et très jurassique, je dirais, entre guillemets. Mmh. Il faut travailler à la fois avec des scientifiques pour donner quand même une explication qui est réelle et basée sur des faits, mais également de construire un univers qui attire l'imagination.
L'exposition Le Temps des dinosaures est installée en ce moment à Paris Expo. Elle est destinée à voyager. Comment allez-vous faire pour transporter tous ces monstres, tous ces géants ?
Ah, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir les dégonfler, les regonfler, parce que ce ne sont pas des ballons. C'est une grande entreprise que celle d'emménager, déménager tout ce barnum, je dirais. Mais bon, c'est formidable de voir les gens qui viennent et qui découvrent ce type d'expo. Donc pour moi, créer ça, produire une expo pareille, surtout avec les partenaires qu'on a à Paris, c'est vraiment un événement formidable. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de camions, beaucoup de transports, beaucoup de monde pour installer et désinstaller une exposition pareille. Mais je crois que ça vaut vraiment, vraiment la peine.
Oui, en attendant, on peut la voir à Paris, à la porte de Versailles. Cette exposition, Le Temps des dinosaures, elle y est installée à Paris Expo jusqu'au 28 août. Merci beaucoup, Manu Braff, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le producteur et le promoteur à l'origine de l'exposition, Le Temps des dinosaures. Merci, bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Alban Le Prince.
Emmanuel Macron dans le Tarn aujourd'hui à Gaillac. Déplacement sur le thème de la sécurité du quotidien en zone gendarmerie. C'est la 4e visite du président depuis sa réélection. Un quart des vols au départ de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle annulé entre 7h et 14h aujourd'hui. Conséquence d'une grève des salariés au sol qui réclame 300 euros de hausse de salaire sans condition pour tous. Les aéroports européens qui font également l'objet de pénuries de personnel. Et puis Cédric Jubilard restera-t-il en prison ? Cela fait un an que le suspect numéro 1 dans le meurtre de son épouse Delphine est en prison. Un juge l'entendra aujourd'hui avant de décider d'une éventuelle remise en liberté.
Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, ou plutôt santé ce matin avec Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Olivier. Alors vous nous parlez ce matin d'un vin saisonnier, une spécificité française, le rosé.
Oui, les températures montent et avec elles, comme vous l'avez dit, la consommation de vin rosé, un segment de notre viticulture qui a le vent en poupe depuis quelques années. Et oui, c'est vrai que c'est assez saisonnier, c'est 3 ou 4 mois par an, mais ça permet aussi de toucher un nouveau public plus jeune, plus féminin. Et vous l'avez dit, le rosé est une spécificité française, car même si certains de nos voisins, comme les Italiens et les Espagnols, en produisent, ils sont bien loin d'avoir la réputation et le savoir-faire des nôtres. Car même si les rosés ont la réputation d'être des vins faciles, ce qu'ils sont souvent, ils sont en réalité assez difficiles à élaborer.
Oui, en effet, mais on ne mélange pas du blanc et du rouge, hein.
Effectivement, même si l'Europe avait bien tenté de légaliser cette pratique qui a cours en Espagne, par exemple. Et il faut savoir qu'en France, il n'y a qu'une seule région dans laquelle on peut procéder ainsi, c'est la Champagne. Mais laissons ça de côté. Partout ailleurs, le rosé est un vin issu de raisins rouges, à jus blanc. Il doit être pensé dès le début, c'est-à-dire dès la vigne. Ça ne peut pas être un sous-produit du vin rouge. On ne cherche pas la même maturité de raisin. Il faut conserver de la fraîcheur. Et ensuite, la technique de vinification est complexe et méticuleuse, que ce soit par pressurage direct ou saigné, les deux méthodes qui permettent de produire du rosé.
Et quelle est la différence entre ces deux méthodes ?
Alors, le pressurage direct consiste à presser directement les raisins, comme pour faire du vin blanc. Le jus qui va rester quelques temps en contact avec les peaux va se tacher. On obtient alors des rosés très pâles, hein, comme ceux qu'on trouve très majoritairement en Provence. L'autre méthode, par saigné, consiste à démarrer la vinification comme pour un rouge, en mettant les raisins dans une cuve et en la saignant, c'est-à-dire que l'on récupère le jus après quelques heures seulement. Ça donne des rosés en général plus structurés, plus puissants. C'est ce type de rosé qu'on trouve dans l'une des deux seules appellations 100% rosé de France, c'est Avel.
Mais alors aujourd'hui, Olivier, la mode est au rosé très pâle.
Oui, on veut des vins frais, fruités, dont les nuances se rapprochent beaucoup des blancs, avec des touches d'agrumes en général. La grande majorité de ces vins sont issus d'une région qui s'en est fait une spécialité, la Provence. On peut d'ailleurs regretter un peu que la région abandonne les autres couleurs, hein, alors qu'on peut produire là-bas des vins blancs et rouges de fort bonne qualité. Faut savoir que 80% des rosés de Provence sont totalement standardisés. Ils se ressemblent un peu en termes de couleur et de goût. Et pour cause, ils sont faits de la même manière, presque industriels. La notion de terroir veut alors malheureusement plus dire grand-chose.
Je suis sûr que oui, mais je vous pose quand même la question. Existe-t-il de bons rosés ?
Eh bien, bonne nouvelle, oui. Des rosés de vignerons qui cherchent à produire des cuvées de gastronomie et pas des vins pour être bu avec des glaçons. On en trouve d'ailleurs quelques-uns en Provence, mais aussi dans la Loire, le Rhône, le Languedoc ou même Bordeaux. Certains d'entre eux sont capables de vieillir quelques années et de déployer alors des arômes beaucoup plus complexes. Bon, évidemment, ils sont un peu plus chers. Il faut compter entre 10 et 20 euros pour une bonne bouteille de rosé.
Des bons rosés à consommer avec modération.
Bien sûr.
Merci Olivier.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et un vent d'incertitude.
Oui, qui souffle sur ces législatives. Le premier tour c'est dimanche, hein, au cas où vous auriez oublié. Et force est de constater qu'on a bien du mal à ce stade de prédire l'issue de ces élections. Tout est très ouvert entre un président réélu clairement en manque de dynamisme, l'improbable union des partis de gauche et une abstention qui pourrait une nouvelle fois battre des records jusqu'à 56% selon un récent sondage. Emmanuel Macron obtiendra-t-il une majorité absolue le 19 juin dans une semaine? La NUPES peut-elle mener Jean-Luc Mélenchon à Matignon ou à défaut devenir la première force d'opposition? On en parle dans une dizaine de minutes avec notre invité, le politologue Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
C'est son troisième album qui va faire d'elle une star planétaire. Cet album sorti il y a 15 ans va lui permettre de se démarquer des autres chanteuses. La partition de Rihanna dans 20 minutes.
Le retour d'Anissa Haddadi pour la météo et encore quelques petites pluies.
Oui, toutes petites ce matin, mais c'est vrai que la perturbation qui a bien arrosé la France est en train de s'évacuer vers l'Allemagne. Donc le temps reste encore mitigé dans le nord-est du pays, avec ce matin en Lorraine et jusqu'aux Alpes des petites averses. Toujours à l'est, mais cette fois-ci en se rapprochant de la Méditerranée. Plus vous descendez dans la vallée du Rhône et vers la Méditerranée, plus le vent souffle fort. On en a de plus en plus du vent ce matin. Tramontane, Mistral, ça va durer toute la journée. 70-80 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h au bord de la Grande Bleue. Attention au risque d'incendie avec ce vent qui souffle fort. Aujourd'hui, on va être très vigilant dans le sud-est. À l'ouest, c'est couvert en Occitanie, mais le soleil sera généreux sur tout le quart nord-ouest du pays, de la Bretagne à la région parisienne, du nord à la Nouvelle-Aquitaine. Les températures, 11 à 20 degrés ce matin, cet après-midi, 18 pour Aurillac, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et Biarritz, 27 pour Ajaccio et 29 à Nice.
C'est noté, merci infiniment. Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Il est 6h. Et à la une de ce jeudi 9 juin, cette question, nos aéroports vont-ils tenir la cadence? L'été s'annonce compliqué pour le secteur aérien. Le trafic reprend, mais au sol, le personnel manque. Reportage à Nice où les salariés appréhendent déjà le rush des vacances. Au procès du 13 novembre, l'heure du réquisitoire, les avocats généraux prennent la parole jusqu'à demain. Séquence cruciale pour les parties civiles que vous entendrez dans ce journal. Et puis nous partirons dans les Vosges, première récolte de miel. Et la saison promet d'être exceptionnelle.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Anticiper. Voilà ce qu'il vous reste à faire ce matin si vous prenez l'avion à Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Un quart des vols annulés entre 7h et 14h. Les salariés en grève réclament une hausse de salaire de 300 euros.
Et ce n'est qu'un exemple. Des centaines de vols supprimés ces derniers jours, également au Royaume-Uni, en Italie ou encore aux Pays-Bas.
Et à chaque fois, un sous-effectif chronique qui empêche les aéroports de tenir la cadence. Le secteur paie le prix des licenciements actés pendant la pandémie. 15 000 emplois supprimés en France selon le syndicat Force Ouvrière. À Nice, troisième aéroport de France, le personnel redoute déjà l'été. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Avec cet été plus de 50 000 personnes attendues chaque jour, les deux aérogares de l'aéroport de Nice ne devraient pas échapper aux longues files d'attente. Aymeric Staub, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur.
Il va y avoir certains jours et à certaines heures des pics de trafic. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'on a une exigence accrue en matière de sûreté en cette période. Et la deuxième, c'est qu'il y a encore des postes à pourvoir chez nos sociétés partenaires justement en charge de ces opérations de sûreté. Je pense notamment au passage d'inspection filtrage où on doit enlever sa ceinture.
Les voyageurs sont appelés à anticiper.
On va mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et préserver notre qualité de service. Mais évidemment, on invite les voyageurs à prendre leur disposition, à venir un peu plus tôt qu'ils ne le penseraient nécessaire pour qu'ils puissent embarquer en toute sérénité.
Des conseils qui semblent bien accueillis par ces voyageurs rencontrés à Nice.
On a compris qu'il y avait beaucoup de contrôles, donc pour nous, ça ne changera rien. Il faut que les gens soient un peu disciplinés.
Bien sûr, on s'adapte à tout.
Enfin, je trouve que normal, en plus d'avoir pas mal de contrôles, sécuriser tout.
Tout dépend après de si vous travaillez avant et que vous devez sortir du travail plus tôt, etc. pour aller prendre l'avion. Oui, là, c'est perturbant.
À Nice, deux sociétés se partagent le marché de la sécurité de l'aéroport. Elles peinent aujourd'hui à recruter.
Le reportage de Frédéric Michel à l'aéroport de Nice pour Europe 1. Lui ne devrait pas subir de retard pour son vol. Emmanuel Macron part dans le Tarn ce jeudi. Un déplacement sur la sécurité en zone rurale à trois jours des élections législatives. Arrêt prévu à Gaillac et puis celle-ci, deux communes qui ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de la présidentielle.
C'est un dispositif présenté comme exceptionnel par le gouvernement, mais il n'a pas vraiment convaincu les soignants.
Des mesures pour l'hôpital énumérées hier par Brigitte Bourguignon. Pour pallier le manque de soignants, la ministre de la Santé a détaillé trois pistes. Proposer aux retraités de reprendre du service, des heures supplémentaires payées double et permettre aux étudiants de travailler avant même la reprise de leur diplôme.
6h02 sur Europe 1. Que retiendra-t-on de cette audience ?
Une question vertigineuse de l'avocate générale au procès du 13 novembre où les réquisitions du parquet se poursuivent ce jeudi. Une séquence qui va durer jusqu'à demain avec la réquisition des peines pour la vingtaine d'accusés. L'aboutissement de 9 mois d'audience pour les parties civiles. Dominique Kielmoès a perdu son fils de 24 ans au bar La Belle Équipe. Cette mère, présidente d'association de victimes, a salué le réquisitoire de l'avocate générale Camille Entier.
Une synthèse brillante qui nous rappelle les faits, l'action des différentes personnes qui sont impliquées dans ce procès. C'est une affaire de nation. Elle l'a dit aussi, Camille Entier, c'était très bien, de dire qu'on a l'impression d'avoir deux faces d'une société, à la fois tous ces gens qui ont été blessés ou en tout cas ciblés. On sentait la vie, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Et de l'autre, un sectarisme, une idéologie enfermant ces individus qui, eux aussi, vont perdre leur vie.
Le témoignage de Dominique Kielmoès, partie civile au procès du 13 novembre au micro de Marion Gauthier. Au moins 650 millions d'euros de dégâts. Premier bilan des orages du week-end de la Pentecôte d'après l'assureur Covéa qui compte près de 25 000 sinistres déclarés.
Une météo orageuse, humide, qui fait le bonheur d'au moins une catégorie d'agriculteurs, les apiculteurs.
Oui, et la récolte s'annonce même exceptionnelle, surtout après une saison catastrophique l'an passé. Démonstration et dégustation avec notre correspondant dans le Grand Est, Tatiana Geyser. Zelman a assisté aux premières extractions dans les ruchers des Vosges.
Faut pas ne pas aimer le collant.
Les doigts dégoulinants de miel, Sylvie Lair gratte la cire collée sur les cadres de la ruche avant de les glisser sur le tapis métallique de la désoperculeuse.
L'abeille, quand le miel est mûr, elle met une opercule de cire sur les alvéoles. Et notre machine ici, elle gratte toutes les alvéoles pour les ouvrir.
Et à partir de là, le miel commence déjà à couler.
Encore 7 cadres et on a fini cette machine.
Direction ensuite, l'extracteur, sorte de grosse centrifugeuse.
D'abord, on pensait ne pas faire de miel d'acacia cette année, mais il y en a, on est content. En plus, il est de bonne qualité.
Au total, ce sont déjà 15 tonnes de miel que l'apicultrice a pu récupérer, soit 10 fois plus que l'année dernière.
L'année dernière, malheureusement, c'était tout vide. Et là, cette année, pour l'instant, c'est pas mal. Ça fait du bien au moral. On va voir ce que la suite donne.
La suite, ce sont les miels de sapin et de forêt. Et une nouvelle fois, tout dépendra de la météo.
Avec la nature, il faut rester modeste. Il faut prendre ce qu'elle nous donne.
En espérant qu'elle donne autant qu'en 2020, année record pour les apiculteurs. Strout, Tatiana Geyser-Mann, Europe 1.
J'étais obligée, Julien.
C'est mignon.
Plébiscite de toute la rédaction. Je suis sûre que vous regardiez ça en plus quand vous étiez
absolument,
enfant. Ou peut-être
absolument.
Même ce matin avant d'aller au travail, ouais. je ne sais pas.
Quand je rentre là,
en mangeant des miels la saison 25.
En mangeant des miels pops, exactement.
Merci beaucoup, Romain Roquet. Okay. Ouais, voilà.
Ouais, ça perturbe, je comprends.
La fatigue. À tout à l'heure.
Les sports sur Europe 1. Avec vous, Martin Lange, et on commence par une petite révolution qui se prépare du côté de l'Olympique Lyonnais.
Oui, le milliardaire américain Foster Gillette serait sur le point de devenir l'actionnaire majoritaire de l'OL. Il rachèterait aussi une partie des parts de Jean-Michel Aulas, le président historique, qui aurait négocié une période de 3 ans de transition à la tête du club. Gillette, fils de l'ancien propriétaire de Liverpool, aurait aussi promis une grosse enveloppe dès cet été pour renforcer l'équipe. On devra en savoir plus ce matin, puisque Jean-Michel Aulas organise une conférence de presse à 9h.
Côté terrain, Martin, les Bleus sont arrivés à Vienne.
Oui, ils préparent leur 3e match de Ligue des Nations contre l'Autriche demain. Après les expérimentations contre la Croatie, Didier Deschamps devrait revenir à du classique contre les Autrichiens. Kanté, Benzema, Griezmann et peut-être un petit nouveau, Ibrahima Konaté, impressionnant à Liverpool cette saison. Le défenseur vit un rêve éveillé, même s'il essaie de garder les pieds sur terre.
J'ai Thierry Henry qui me vient en tête, Zidane un petit peu, mais j'étais très jeune. C'est vrai que quand je me remémore ça, jamais un jour j'aurais pu me dire que ouais, un jour je vais porter ce maillot bleu avec ce coq. Aujourd'hui j'y suis, donc pour vivre le truc et pas trop rêver.
Autriche-France, c'est demain à 20h45, à suivre évidemment dans Europe 1 Sport.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du cyclisme avec la victoire du champion du monde Philippe Ogana hier lors du contre-la-montre du Dauphiné. Deuxième, le Belge Wout van Aert consolide son maillot jaune. Et puis du handball, dernier match du championnat hier et saison historique pour le champion de France, le PSG. 30 matchs, 30 victoires, c'est une grande première. Dernière journée marquée aussi par les adieux de Michaël Guigou. À 40 ans, l'ailier prend sa retraite avec l'un des plus beaux palmarès du sport français. 3 titres olympiques, 4 mondiaux, 3 euros et 31 titres en club. Tout simplement monstrueux.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
J-3 avant le premier tour des législatives. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon peut-elle créer la surprise? On en parle dans une minute avec le politologue Benjamin Morel. À tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Excellente matinée sur Europe 1, il est 6h09. Votre invité Julien est docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay.
Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin, à 3 jours maintenant du premier tour des législatives, élection dont l'issue fait habituellement peu de doutes. Le président élu obtient généralement une majorité absolue à l'Assemblée. Or, cette fois, cela semble moins évident. Comment l'expliquez-vous ?
Tout simplement parce qu'en réalité, les élections législatives depuis le quinquennat sont des élections qui sont confirmatives. Il faut comprendre que souvent on dit les Français veulent donner une majorité au président de la République. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe en règle générale, c'est un phénomène de participation différentielle. L'électorat de la majorité est content, il a gagné, et donc il se mobilise aux élections législatives. L'électorat de l'opposition, lui, est groggy, il a perdu, et donc il se démobilise, laissant la voie à la fois une large abstention et à une surreprésentation de l'électorat de la majorité, d'où ces effets de vague que l'on voit, vague macroniste, avant vague socialiste, vague sarkozyste, etc. Donc cette situation, on la connaît moins aujourd'hui, parce qu'à la fois, on a un président qui a été reconduit, ce qui induit un moindre enthousiasme, et que par ailleurs, eh bien, on a eu 2 mois entre les deux élections, ce qui a permis un embryon de campagne, si ce n'est en tout cas extrêmement captivant, mais en tout cas différent de la présidentielle, de se mettre en route.
Donc si forte abstention il y a dimanche, hein, ce qui semble être le cas vu que le dernier sondage en la matière montre qu'il y aurait jusqu'à 56% d'abstention, et ça ferait le jeu, si je comprends bien, d'Emmanuel Macron et de la majorité sortante ?
Alors ça ferait plutôt le jeu de la majorité sortante, mais pas pour des raisons habituelles. D'habitude, encore une fois, c'est l'électorat de l'opposition qui se démobilise. Là, c'est pas tout à fait le cas. Jean-Luc Mélenchon a réussi à mobiliser relativement bien sa base électorale. Ce qui fait le jeu de la majorité en cas d'abstention, eh bien, c'est 2 points. D'abord, le premier point, c'est que La République En Marche, ensemble, eh bien, a un électorat qui est un électorat structurellement assez peu abstentionniste, si je veux caricaturer, composé plutôt de CSP+, et de personnes âgées. Or, ces électeurs vont voter quoi qu'il arrive. Et donc, évidemment, si jamais vous avez une forte abstention, ils pèsent beaucoup plus que leur poids démographique. Le deuxième élément, c'est que, on y reviendra peut-être, mais il y a un avantage structurel au parti centriste dans un système de tripolarisation de la vie politique qui se retrouve soutenu par la gauche quand il se trouve face à la droite et vice-versa. Ça s'évanouit en cas de multiplication des triangulaires. Pour avoir des triangulaires, il faut que vous ayez plus de 3 candidats qui fassent 12,5% dans une circonscription. C'est possible quand vous avez 60-70% de participation. C'est beaucoup moins évident quand vous n'avez 40 ou 50.
Ce serait un gros échec pour Emmanuel Macron si, ensemble, la coalition présidentielle n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée le 19 juin ?
Alors ce serait un gros échec et à 2 enseignes. La première enseigne, c'est que comme je l'ai dit, il y a un avantage structurel au centre. Et donc entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais pour ne pas avoir la majorité au vu de la situation politique actuelle, il faut le faire. En tout cas, il ne faut pas le faire, justement. Il ne faut pas faire campagne. Et ce qui a été un peu le cas. Donc, ce serait vraiment, pour le coup, une défaite profonde avec qui plus est.
Il y a eu un péché d'orgueil. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a eu un péché d'orgueil à l'issue de du second tour de la présidentielle où, dans les rangs macronistes, on s'est dit, bon, bah, voilà, finalement, il n'y a pas besoin de faire campagne.
Alors, un péché d'orgueil, peut-être, parce que justement, il y a un avantage structurel. Et ensuite, il y a peut-être également un peu de stratégie, parce que comme je l'ai dit, eh bien, une abstention massive liée à une campagne qui ne trompe pas, et donc qui ne prend pas sur des sujets clivants, qui pourraient mobiliser l'électorat d'opposition, c'est plutôt dans l'intérêt de la majorité. Si jamais on avait eu, lors de cette campagne, une structuration profonde de l'électorat sur un thème comme la réforme des retraites, sur lequel le président de la République, selon les enquêtes, apparaît quand même sur une position qui n'est pas soutenue par la majorité des Français, ça aurait pu conduire à mobiliser des électeurs contre ensemble. Donc, dans une campagne dans laquelle rien n'accroche, dans une campagne dans laquelle beaucoup d'électeurs sont prêts à une reconduction par défaut, vous avez un avantage qui est maintenu.
Et la nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, vous la voyez créer la surprise ?
Alors, c'est plutôt improbable pour deux raisons. La première raison, je l'ai donnée, c'est parce que vous avez cet avantage structurel des centres. Si la NUPES se retrouve face à ensemble, il est fort à parier qu'une grande partie de l'électorat de droite, au second tour, votera ensemble. Idem si l'ensemble se retrouve face au RN. Donc cet avantage structurel du centre qui permet de tenir, même avec une base électorale relativement faible, 25 à 30% des électeurs, il est difficile de s'en départir avec une forte abstention. Le deuxième élément, c'est que vous avez un électorat de la NUPES qui est un électorat géographiquement très concentré. Je m'explique. Pour arriver à emporter une législative, il ne faut pas faire 75% dans 100 circonscriptions. Il faut faire 51% dans le maximum de circonscriptions, si possible de 189. Or, l'électorat de la NUPES, ce n'est pas le cas pour l'électorat ensemble, est concentré surtout dans quelques circonscriptions, 100 à 150, ce qui fait que dans ces circonscriptions, elle aura la partie plus facile, mais ce qui fait que du coup, dans les autres circos, ce sera plus dur.
Il y a aussi l'image clivante de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait également coûter des voix dans ces derniers jours. Je pense notamment à la police tue, ces récents propos qui font grandement polémique.
Oui, alors c'est un problème entre guillemets de second tour. Et c'est en effet assez incompréhensible d'un point de vue purement de sociologie électorale que ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Il faut voir qu'ils peuvent avoir une portée. On dit beaucoup c'est de la stratégie de la popote électorale, mais dans ce cas-là, c'est de la popote électorale pas très intelligente, parce que l'électorat qui peut être sensible éventuellement à ce type de propos est concentré justement dans certaines circos qui, de toute façon, sont déjà à la NUPES ou vont y tomber. Donc, tenir des propos pour mobiliser cet électorat est électoralement inutile. En revanche, pour emporter le maximum de second tour face à ensemble, Jean-Luc Mélenchon va avoir besoin soit que l'électorat de droite, notamment l'électorat RN, se replie de manière importante sur lui, soit au moins qu'il s'abstienne. Or, avec de tels propos, vous mobilisez contre vous une partie de l'électorat de droite au second tour, ce qui, évidemment, n'est surtout pas ce qu'il faut faire.
Dernière question, Benjamin Morel. Si le 19 juin, à l'issue du second tour, aucune coalition n'obtient la majorité absolue, il se passe quoi ?
Eh bien, il se passe ce qu'on appelle un gouvernement minoritaire. Alors, un gouvernement minoritaire, on l'a connu de 88 à 93, mais à l'époque, c'était un peu différent. On pouvait gouverner, c'était ce que faisait Rocard, à coup de 49 alinéa 3. Or, ça a été limité en 2008 par une réforme constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, un gouvernement minoritaire serait tenu de chercher une majorité sur chaque texte.
Donc, du côté des LR, si je comprends bien.
C'est compliqué. Alors, soit vous trouvez une majorité sur chaque texte, soit, autre hypothèse, vous faites un contrat de coalition. Pour faire un contrat de coalition, il faut trouver un partenaire de coalition qui a suffisamment de députés. Donc, peut-être, en effet, que LR, pour ensemble, serait le partenaire le plus naturel. Mais c'est un partenaire de coalition que vous devez consulter sur chaque texte, sur chaque projet que vous faites. Ça veut dire que
c'est un caillou dans la chaussure du président, effectivement, pour ces réformes à venir. Merci beaucoup, Benjamin Morel, de nous avoir éclairé sur les enjeux multiples et variés de ces élections législatives. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Excellente journée à vous.
Vous restez avec nous à suivre la partition de la chanteuse Rihanna tout de suite.
Votre partition, Omblin, il suffit parfois de pas grand-chose, comme être au bon endroit au bon moment. C'est ainsi que la carrière de la chanteuse Rihanna commence alors qu'elle n'est qu'une adolescente.
Oui, c'est vrai, elle a 15 ans et son destin bascule grâce à une rencontre. Il s'appelle Evan Rogers. Alors son nom ne vous dit sans doute rien et pourtant il est un auteur et producteur plutôt bankable dans l'univers de la pop. Et il se trouve que cet Evan Rogers est en vacances à la Barbade avec sa femme quand il tombe sur Robin Rihanna Fenty.
Cette jeune Robin ne sait pas jouer d'instrument et elle n'écrit pas de chansons.
Oui, mais elle a une sacrée voix et elle a du chien aussi, un charisme qui occupe tout l'espace et un physique de mannequin renversant. Elle est surtout prête à tout pour s'extraire d'un quotidien misérable auprès d'un père alcoolique, drogué et violent.
Fan de reggae, elle se produit au sein de plusieurs groupes dans son quartier.
Oui, le producteur lui fait enregistrer une démo avec une reprise de Whitney Houston et de deux chansons originales.
Robin est rebaptisée Rihanna et nouveau coup de pouce du destin, sa démo atterrit sur le bureau d'un certain Jay-Z.
Oui, il est alors le président du label Def Jam, considéré comme par les puristes comme le label historique et précurseur du mouvement hip-hop. Def Jam, c'est à l'origine LL Cool J, les Beastie Boys, Public Enemy et le distributeur du premier album de Warren G, dont on parlait ici il y a deux jours. Un après-midi au cœur de l'hiver 2005, Rihanna rencontre Jay-Z et après avoir interprété Pon de Replay, il refuse de la laisser partir avant qu'elle n'ait apposé sa signature au bas d'un contrat. Ce jour-là, la chanteuse va quitter le bâtiment de Def Jam à 3h du matin, une fois l'accord conclu.
Le premier album de Rihanna sort quelques mois plus tard.
L'année suivante, elle enchaîne avec un deuxième album. Le succès est honorable, mais il lui manque un tube, une chanson signature pour faire décoller sa carrière, pour lui donner une identité et la différencier des autres chanteuses du moment.
Et elle doit ce déclic à un refus.
Et oui, celui de l'équipe de Britney Spears. Un trio d'auteurs-compositeurs avait écrit la chanson Umbrella pour elle. Texte et musique retoqués. Résultat, troisième coup de chance pour notre héroïne du jour. Alors que Mary J. Blige devait être le plan B, devant l'insistance de Jay-Z, la chanson est finalement confiée à Rihanna et elle va lui permettre de gagner son statut de popstar planétaire. Cette place de numéro 1 qu'elle avait tant attendue et espérée, elle l'obtient enfin le 9 juin 2007 et elle va rester au sommet des charts pendant 7 semaines. Rihanna, accompagnée de son producteur Jay-Z avec Umbrella.
Et des Umbrella, on devrait en avoir besoin aujourd'hui, figurez-vous. Merci beaucoup, Omblin, vous restez avec nous. Dans un instant, la météo d'Anissa Dadi et la matinale avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Il est 6h25, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de la matinale avec Dimitri Pavlenko. On vous accompagne jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La météo dans un instant avec Anissa Haddadi. Et puis, l'invité de 8h13 avec nous. C'est votre invité d'ailleurs ce matin, Dimitri Pavlenko.
Bonjour Dimitri.
Bonjour, vous me prenez un peu de cours. Là, d'habitude, oui, on est deux minutes plus tard. C'est vrai. Écoutez, ce sera Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h13.